Éric Bataillon.
Bonjour. Faut-il y voir un signe au moment où l'Iran fêtait le 25e anniversaire de la mort de l'ayatollah Khomeini? Cette semaine, une terrible tempête de sable frappait Téhéran. Que reste-t-il aujourd'hui de la révolution islamique de 1979? Qui sont les héritiers de Khomeini? À quoi aspire la jeunesse iranienne? Quelques éléments de réponse avec la sociologue belge d'origine iranienne, Firouzeh Nahavandi. L'Iran, nous en parlerons encore avec Sarah Grira, des observateurs de France 24, puisque des femmes non voilées sont désormais directement menacées de représailles par SMS. On parlera avec elle également de la mort d'un adolescent de 14 ans au Bahreïn et d'une révolte par Internet au Maroc. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
می‌دونیم که این مصیبت‌ها برای چه به این ملت وارد شده.
Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Firouzeh Nahavandi, sociologue d'origine iranienne, professeur à l'Université libre de Belgique et professeur associé à l'Université Sangor d'Alexandrie en Égypte. Bonjour madame.
Bonjour.
Avec vous, nous allons parler de l'Iran d'aujourd'hui. L'Iran qui a marqué cette semaine, c'était mardi 3 juin très exactement, le 25e anniversaire de la mort de Ruhollah Mousavi Khomeini, plus connu sous le nom de l'Ayatollah Khomeini. Alors c'est le guide spirituel de la révolution islamique de 1979 qui renverse le Shah d'Iran. Il devient le guide de la révolution et dirige cette théocratie jusqu'à sa mort en 1989. Firouzeh Nahavandi, que reste-t-il de Khomeini aujourd'hui et surtout de sa révolution islamique?
Toutes les traditions que Khomeini a laissées en place restent totalement vivantes et il reste malgré tout une référence pour les dirigeants de la révolution iranienne, donc pour les dirigeants actuels de l'Iran. Il reste un gage d'authenticité du régime actuel, mais dans le même temps, évidemment, les circonstances économiques et les circonstances internationales ont fait que beaucoup des particularités que Khomeini avait mis en place, je pense par exemple au côté révolutionnaire du régime iranien, se sont quand même atténuées pour pouvoir correspondre à la réalité actuelle de ce pays.
Qui porte son héritage aujourd'hui? On voit l'omniprésence de l'ayatollah Khamenei, mais d'autres forces politiques sont également à l'œuvre. Et l'ancien président Ahmadinejad, par exemple, n'avait pas émergé par hasard.
Non, tout à fait. Ahmadinejad avait effectivement émergé en se référant explicitement à Khomeini et à son héritage révolutionnaire ainsi qu'à ses valeurs. Mais encore aujourd'hui, non seulement je pense que Khamenei, évidemment, est dans la ligne de Khomeini, mais l'ensemble des dirigeants iraniens, même s'il y a de nombreuses tensions entre eux, se réclament quand même de Khomeini. Et il y a évidemment toutes les institutions qu'il a mis en place et qui fonctionnent telles quelles, à savoir les différentes instances de surveillance, les différentes institutions politiques, mais également toutes les forces de contrôle comme les gardiens de la révolution et puis toutes sortes de fondations charitables, entre guillemets, qui sont à la base même du fonctionnement de l'économie iranienne. Donc finalement, on peut dire que les structures que Khomeini a mis en place restent tout à fait vivantes.
Il y a d'ailleurs toujours une sorte de police des mœurs religieuses qui fait la chasse notamment aux femmes non voilées. Est-ce que la société iranienne vous paraît aujourd'hui toujours autant verrouillée?
La société iranienne est nettement moins verrouillée et en tout cas beaucoup plus revendicatrice qu'à l'époque de Khomeini. À savoir que c'est une société qui, d'une part, démographiquement, a beaucoup changé. C'est une société où les jeunes font partie de la majorité de la population, où l'éducation, évidemment, depuis l'époque de Khomeini, a encore évolué. Donc on a une population éduquée, une population jeune, une population qui est ouverte vers l'extérieur par l'intermédiaire des nouvelles technologies de l'information. et qui est une société qui réclame plus d'ouverture dans les mœurs, et ne serait-ce que du côté des jeunes femmes, on a beaucoup plus de liberté dans la manière de s'habiller. En revanche, ce qui ne change pas, ce sont les réglementations très fortes qui sont héritières de l'époque romaine en ce qui concerne ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, les lois du mariage, les lois de sortie, tout ce qui touche le quotidien. Les lois n'ont pas changé.
Mais Firouzeh Avandi, est-ce que l'élection du nouveau président Hassan Rouhani, qui paraît être immodéré, en tout cas aux yeux des Occidentaux, est de nature à faire évoluer cette société et à soulever un peu cette chape de plomb qui paraît être encore présente?
L'élection de Rouhani a soulevé effectivement beaucoup d'espoir à l'étranger parce qu'il semblait être un gage d'ouverture vers l'étranger et effectivement des promesses sur la régularisation des relations avec l'Occident en particulier ont été nombreuses, de même que à l'intérieur, son élection a suscité beaucoup d'espoir. Mais en fait, il faut bien faire la différence entre modéré et réformateur. C'est peut-être quelqu'un de plus modéré par rapport à Ahmadinejad, mais c'est un homme du terrain. C'est un homme qui a gravi tous les échelons de la hiérarchie de la République islamique. C'est un homme qui a participé à l'organisation du pouvoir actuel. Ce n'est pas un homme qui se réclame de changer les réglementations et la constitution de l'Iran, ni vraiment des mœurs. À chaque fois qu'il y a un pas ou une annonce d'ouverture, il y a toutes les réactions qui se mettent en place et qui finalement neutralisent les tentatives de changement.
Mais malgré tout, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de jeunes, une population jeune en Iran, et aussi l'arrivée des réseaux sociaux dont on voit les effets régulièrement. Est-ce que cette alchimie entre les deux pourrait, pourquoi pas, déboucher sur une sorte de printemps, non pas un printemps arabe évidemment, mais un printemps iranien dans les prochains mois?
Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de changement à l'horizon dans les prochains mois. Mais néanmoins, on peut s'attendre à ce que le changement dans la société iranienne puisse aboutir à un changement, mais dans les années qui viennent. Je ne pense pas que pour le moment, il y ait vraiment de révolte ou de changement qui vienne d'un mouvement social, en tout cas. En revanche, ce qui me semble peut-être plus important pour les mois à venir, c'est la situation économique qui engendre de plus en plus de mécontentement étant donné le désastre économique dans lequel est l'Iran et qui peut provoquer des revendications par rapport à la situation.
Merci Firouzeh Nahavandi, sociologue belge d'origine iranienne. Vous étiez avec nous par téléphone depuis Bruxelles. Alors, je donne le titre de votre dernier ouvrage qui paraît cette semaine et qui s'appelle « Afghanistan » aux éditions The Book à Bruxelles. Et je rappelle un autre ouvrage qui est paru aussi récemment qui s'appelle, lui, tout simplement « Iran » aux mêmes éditions The Book à Bruxelles. Merci.
Merci beaucoup.
Orient Hebdo sur RFI.
Des Émirats du Golfe au bord de la Méditerranée, des plages de la mer Noire aux confins du Kurdistan, les observateurs de France 24 nous envoient leurs informations insolites, humoristiques ou révoltées, c'est selon. Bonjour Sarah Grira.
Bonjour Eric.
Vous êtes l'une des journalistes qui collecte ces informations des observateurs et comme chaque mois, vous avez sélectionné 3 de ces informations pour Orient Hebdo. On commence avec le Bahreïn où la contestation continue loin des lumières des médias.
Le Bahreïn effectivement qui défraye l'actualité avec la mort de Mahmoud Mohsen, un adolescent de 14 ans. Il a été victime de tirs de chevrotine dans le cœur et le thorax le 23 mai dernier lors de la commémoration de la mort d'un autre militant. Le jeune Mahmoud était ce qu'on appelle un journaliste citoyen chargé par les militants de l'opposition de filmer les manifestations. Pour rappel, le royaume du Bahreïn est dirigé par la dynastie sunnite des El Khalifa et le pays est animé depuis 2011 par un mouvement de contestation animé par la majorité chiite de la population. un mouvement qui a notamment été réprimé avec le soutien de l'Arabie Saoudite voisine.
Oui, c'est un observateur qui disparaît. Du Bahreïn, nous allons en Iran, où les nouvelles ne sont pas plus joyeuses, comme on a pu l'entendre il y a quelques minutes.
Avec l'approche de l'été, les conservateurs iraniens mènent des campagnes dans le pays pour dissuader les femmes qui seraient tentées de retirer leur voile en public. Et depuis un mois, la photo d'une femme ensanglantée et aux yeux tuméfiés circule via des logiciels de messagerie instantanée sur les téléphones portables. Celle-ci est présentée comme victime de viol parce qu'elle ne se couvrait pas la tête. Alors, nous avons bien sûr vérifié, la photo date de 2012 et on la retrouve sur un certain nombre de sites médicaux anglophones, donc elle n'a a priori rien à voir avec cette histoire de viol. N'empêche que l'idée de légitimer le viol des femmes non voilées est récurrente en Iran et elle trouve un certain écho sur les forums.
Voilà qui est terrifiant. On termine par un petit tour au Maghreb et plus précisément au Maroc.
Oui, avec le hashtag ou le dièse de Twitter, Free Kulchi, c'est-à-dire libérer tout le monde en anglo-marocain. Le 6 avril dernier, 11 militants du mouvement de jeunes opposants le 20 février ont été arrêtés lors d'une manifestation syndicale pourtant autorisée par la police. Ils ont été condamnés à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison. Quelques semaines plus tard, c'est au tour d'un rappeur contestataire surnommé l'Haqd ou le rancunier d'être pris pour cible. Suite à cette vague d'arrestations, les Marocains se sont mobilisés sur la toile mais aussi sur le terrain en arborant le slogan « Free Kulchi » pour demander la libération de tous les prisonniers politiques du pays et rappeler que ces détenus sont arrêtés pour leurs idées mais condamnés comme détenus de droit commun sous de faux chefs d'inculpation.
Vous pouvez nous redonner le nom du rappeur ?
L'Haqd.
Merci Sarah Grira.
Ça veut dire le rancunier.
Merci Sarah Grira. On peut retrouver les observateurs sur le site observers.france24.com.
Merci.
Bejman Memardzadeh est iranien et surtout violoncelliste virtuose, premier prix du Conservatoire de Paris. Avec l'orchestre de l'Alliance qu'il dirige, il se produira mercredi prochain, Salle Gaveau à Paris, au profit des réfugiés syriens au Liban. Il jouera notamment Mozart, Béla Bartok, qu'il affectionne particulièrement, et aussi Haydn, dont voici un extrait. Le philosophe, extrait de la symphonie numéro 22 en mi majeur.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la Syrie occupe à nouveau la une et la presse panarabe, en dehors des journaux syriens, s'en prend durement à la réélection de Bachar al-Assad tout en n'étant pas tendre avec l'Occident.
Oui, un article du journal Al-Haya démontre mathématiquement la fraude. Il explique que sur les 15 millions d'électeurs inscrits, 5 millions sont réfugiés dans des pays où ils n'ont pas pu voter, comme en Turquie, en Jordanie et en Égypte, ou ont fui vers des régions syriennes où ils ne pouvaient pas voter. Dans ce cas, je demande au journal comment Bachar al-Assad a-t-il pu obtenir 11,5 millions de voix, 1,5 million de plus que les électeurs potentiels. Et puis, les journaux s'en prennent aussi à l'Occident, et notamment à la France et aux États-Unis, qui un jour, selon le journal, voulaient partir en guerre contre Bachar el-Assad, et qui aujourd'hui traitent leurs citoyens partis combattre en Syrie comme des terroristes potentiels à leur retour.
Alors, des rumeurs de relance de la construction dans les colonies de Cisjordanie, dans la presse israélienne, Michel Paul, réalité ou coup de poker ?
La construction dans les colonies de peuplement en tant que punition suite à la réconciliation entre le Hamas et le Fatah, eh bien Eric, la presse israélienne n'y croit pas. Tenez, regardez ce titre qui barre l'édition du week-end du quotidien Yediot Aharonot. Construction sur le papier, affirme le journal, qui ajoute, pour ceux qui n'auraient pas compris, le bluff des appels d'offres dans les territoires. La grande majorité d'entre elles ne se traduiront jamais par des mises en chantier. Le journal fait remarquer également qu'Israël a transféré aux Palestiniens les sommes dues dans le cadre du prélèvement des impôts. La marche folle de l'histoire, titre un quotidien. Pour un éditorialiste, c'est la victoire de la peur. Benjamin Netanyahou condamne à chaque occasion le nouveau gouvernement palestinien, mais simultanément, il freine toute tentative de sanction à l'égard des Palestiniens. D'où la note que lui accorde l'éditorialiste du quotidien Haaretz. Zéro, et oui, zéro en politique. Au lieu de profiter de la création du nouveau gouvernement palestinien pour lancer une nouvelle initiative de paix, eh bien Netanyahou continue d'accuser le monde entier d'antisémitisme.
Et justement, Michel, il y aurait un nouveau plan de paix au Proche-Orient.
Le nouveau Proche-Orient vu par Avigdor Lieberman. Le quotidien Marie nous explique ce nouveau plan du ministre israélien des Affaires étrangères. Depuis les accords d'Oslo, nous essayons de résoudre nos problèmes avec les Palestiniens sans y parvenir, proclame Lieberman. Alors il propose une nouvelle équation, le savoir-faire israélien plus la puissance économique des pays du Golfe. Cela permettrait de régler tous les problèmes de la région d'un coup, dit le ministre.
Les préparatifs à la prise de pouvoir par Abdel Fattah al-Sissi occupent les unes de tous les journaux égyptiens, Alexandre Bouchanti, et suscitent des analyses dans la presse arabe.
Oui, dimanche, l'ex-maréchal doit prêter serment devant la haute cour constitutionnelle et dans la soirée participer à une grande fête qui réunira les différentes composantes égyptiennes, évidemment, sans des frères musulmans et leurs sympathisants. Mais le vrai clou de la journée, selon les journaux, sera le déjeuner avec les autres étrangers venus pour la circonstance. Alors, les journaux estiment que ce sera le moment où Sissi dévoilera ses grands projets aux bailleurs de fonds potentiels. L'Arabie Saoudite, rappelons-le, soutenue par les Émirats, a appelé à une conférence de donateurs des amis de l'Égypte.
Et puis Alexandre, un éditorialiste du journal Al-Sharq Al-Awsat se demande si le monde arabe est soluble dans la démocratie.
Et la réponse est non, selon Hicham Salah. L'éditorialiste estime que le problème est dû au fait que les arabo-musulmans sont bloqués par une interprétation de l'islam qui n'a pas évolué depuis des siècles et qui véhicule un discours de rejet de l'autre et de refus de l'existence de divergences au sein de la Oumma, la nation. Il faudra d'abord changer le discours religieux avant que la démocratie ne s'installe véritablement, conclut l'auteur.
Michel Paul, la course à la présidence en Israël touche à sa fin.
Mardi, on saura qui va prendre la succession de Shimon Peres à la présidence d'Israël. Yedioth Ahronot a posé 10 questions aux 6 candidats. Reuven Rivlin, le grand favori, affirme qu'il est prêt à rencontrer à tout moment n'importe quel dirigeant arabe. Les résultats donc dans 3 jours.
Alors je ne sais pas si cette élection passionne les Israéliens, Michel. En tout cas, ce qui semble retenir leur attention, c'est une série de faits divers tragiques.
Oui, c'est à la une de tous les journaux, donc des drames dont les enfants sont les victimes, des enfants oubliés dans les voitures, des noyades dans des piscines, des chutes par la fenêtre, point commun, la négligence des parents. Que faire, se demandent plusieurs commentateurs sans apporter véritablement de réponse, mais en faisant toutefois remarquer que le problème semble inhérent à la société israélienne.
Parlons foot, Alexandre, maintenant. À l'approche du mondial au Brésil, les journaux arabes sont surtout préoccupés par la Coupe du Monde de 2022, celle qui, en principe, devrait se tenir au Qatar.
En principe, puisque la plupart des journaux arabes reprennent avec délectation les scandales sur le vote qui a permis l'octroi de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, et l'occasion pour eux et pour la plupart des pays arabes qui n'ont pas avalé le Qatar qui organise la Coupe du Monde, de régler leur compte avec un Qatar qui aujourd'hui est 100e au classement mondial de la FIFA, alors que la Palestine est 94e, très loin derrière l'Algérie, 22e, et l'Égypte, 36e.
Pour conclure cette revue de presse régionale, Michel Paul, votre photo du jour.
Eh bien, c'est la photo des Rolling Stones qui se sont produits à Tel Aviv. Grand succès, mais comme tous les ans, cela remet sur le tapis la question des artistes qui boycottent Israël et ceux qui, au contraire, acceptent de s'y produire.
Oui, un éternel débat. Merci Michel, merci Alexandre. Merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Retrouvez-nous sur le site www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain.